France Culture. Avoir raison avec Jean Giono, Marceau Vassy.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver toute cette semaine pour une série d'Avoir raison consacrée à l'écrivain Jean Giono. Quatrième épisode d'aujourd'hui, le désenchantement du monde. Nous avons parlé hier de l'engagement pacifiste de Jean Giono, né de son expérience de la Première Guerre mondiale. Un combat littéraire et politique qu'il mena tout au long des années 30, jusqu'à ce que le second conflit mondial éclate et ne provoque une scission dans l'œuvre et la vie de l'écrivain. Après la guerre, son œuvre se transforme profondément et bascule ainsi dans une nouvelle partie, ou manière, comme on dit en littérature. Ses livres dissèquent alors davantage les passions humaines et portent en eux une noirceur plus prononcée. Cette seconde manière s'enracine notamment dans le cycle du Hussard, qui se compose de 4 ouvrages, parmi lesquels un des romans les plus célèbres de Giono, Le Hussard sur le toit. Mais ce changement se lit surtout dans ses chroniques romanesques, autour desquelles s'agrègent plusieurs de ses chefs-d'œuvre, comme Les Grands Chemins ou Un Roi sans divertissement. Une seconde partie plus sombre donc, dans laquelle Jean Giono a modifié son rapport au monde et à la littérature.
D'ailleurs, il y a des endroits comme le plateau de Valensol qui semblent destinés à abriter des drames presque shakespeariens, comme nous disions tout à l'heure. Il y a souvent de terribles assassinats en série sur ce plateau. La même chose se reproduit encore du côté de la montagne de Lure sur le flanc sud. Il y a exactement aussi on ne peut pas dire vallées, mais dans des espèces de petites griffures de la montagne. Il y a là des villages qui sont éloignés de presque toute civilisation, dans lesquels les passions sont encore au même niveau que du temps des Achéens. Donc c'est encore au niveau de la pique et de l'invective.
Bonjour Laurent Fourcault.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de Sorbonne Université, spécialiste de l'œuvre de Jean Giono. Vous avez notamment dirigé la série Jean Giono de la Revue des Lettres Modernes. Vous travaillez actuellement à achever un grand livre sur l'écrivain de Manosque qui s'intitule « La perte et l'avarice pour une grammaire de l'imaginaire gionien ». Bonjour Annabelle Marion.
Bonjour.
Vous êtes docteur en histoire et sémiologie du texte et de l'image. Vous avez soutenu en 2022 une thèse consacrée à Jean Giono qui s'intitulait « Étude d'une renaissance d'écrivain, la reconstruction de la figure d'auteur de Jean Giono après la Seconde Guerre mondiale », une thèse qui a été publiée chez Classique Garnier en 2024. Merci à tous les deux d'être avec nous. On vient d'écouter à l'instant Jean Giono, interviewé par Jean Carrière. C'était en 1965 sur France Culture. Je vous ai vu sourire, Laurent Fourcault. Pour quelle raison ?
Parce que l'image que Giono donne de la Provence en 1965 n'a rien à voir avec celle qu'il a longtemps donnée dans les nombreux textes qu'il a consacrés à la Provence, qui sont d'ailleurs parmi les plus beaux qu'il ait écrits. Je pense en particulier au texte intitulé tout simplement Provence, qui se trouve dans le recueil L'eau vive. Et cette fois, l'image de la Provence qu'il donne reflète tout simplement le point où il en est arrivé, c'est-à-dire un profond désenchantement, une vision très noire de la condition humaine.
Annabelle Marion, qu'est-ce que ça vous a fait d'entendre la voix de Jean Giono ?
C'est toujours plaisant hein, de retrouver sa voix très chaude, avec cet léger accent provençal. Pour rebondir sur ce que disait Laurent Fourcault, en effet, Giono, on voit ici comment cet extrait reflète sa pensée d'après-guerre, mais aussi on voit qu'il continue de voir dans la Provence une espèce de terre reculée, presque anhistorique, hein, coupée de l'histoire. Alors avant la guerre, c'était plutôt orienté sur la nature, la vie rurale, le fait que tous les hommes faisaient les mêmes gestes, que ce soit de l'Antiquité à nos jours. Et ici, on retrouve aussi cette idée finalement d'un déni de l'histoire, avec l'idée qu'il y a cette violence de l'homme qui est présente dans les temps modernes, comme c'était le cas dans l'Antiquité. Quoi.
Justement, Laurent Fourcault, on sent quand même, quand on entend Jean Giono, une forme de fascination pour cette violence presque primitive. Est-ce que, justement, cette fascination, elle était là en amont quand même, c'est-à-dire dans sa première manière, ou est-ce qu'elle n'arrive qu'après la Seconde Guerre mondiale ?
elle existait dans la première manière, mais de façon marginale. Je pense par exemple au geste de Pantule dans Regain qui déchiquette un lièvre ou un lapin qu'il a capturé. Il y a là une violence tout à fait caractéristique. Mais elle était refoulée, ou en tout cas elle était marginalisée. Elle apparaît en plein dans l'œuvre d'après-guerre pour des raisons qu'on va sans doute expliquer.
Justement, Annabelle Marion, pour comprendre l'éclosion de cette seconde manière dans l'œuvre de Jean Giono, il faut revenir sur la période autour de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Jean Giono à ce moment-là ?
En 1939, la guerre éclate et donc ça signe pour Giono un échec, l'échec de son combat qu'il a mené dans l'entre-deux-guerres pour la paix et pour ce qu'il appelait les vraies richesses, hein, donc les joies simples, naturelles. Après pas mal d'hésitations, il finit par répondre à l'ordre de mobilisation, donc ce qui est aussi un peu un échec personnel, parce qu'il avait dit qu'il n'obéirait pas si une nouvelle guerre éclatait et qu'il était mobilisé. Et il est par ailleurs aussi emprisonné pour défaitisme, à cause de son engagement pacifiste.
En 1939,
voilà, quelques mois. Et donc, c'est vraiment une grande rupture pour lui. Après, sous l'occupation, c'est aussi une période très difficile, forcément. C'est la guerre, c'est des années très sombres. Et quand on lit son journal de l'occupation, on voit aussi à quel point il y a une espèce de pessimisme, d'amertume, de dégoût profond qui s'amplifie. Et en plus, il est aussi accusé de collaboration. Enfin, il est présenté comme un collaborateur dans la presse de la Résistance. Et à la Libération, il est vraiment frappé d'ostracisme. Il fait partie des auteurs qui sont inscrits sur la liste noire du Comité national des écrivains, qui mène l'épuration dans le monde des lettres. Et donc, il va vraiment être isolé, enfin exclu du monde des lettres. Et il va en tirer aussi beaucoup d'amertume. Et c'est ça aussi qui va changer sa vision, qui va l'amener vers cette noirceur.
Et il sera même aussi emprisonné une deuxième fois en 1944.
Il sera emprisonné une deuxième fois de septembre 1944 à janvier 1945. Et il est relâché, son dossier est vide et aboutit à un non-lieu. Mais même s'il n'y a pas de sanctions légales, il y a des sanctions morales qui pèsent sur lui.
Dans cette seconde manière, qu'est-ce qui change pour Jean Giono dans son rapport au monde, Laurent Fourcault ?
Quelque chose d'absolument essentiel, considérable. Et si on veut comprendre ce qui se passe dans la seconde manière, il faut dire un mot de ce qu'était la première. Pour Giono, le monde est un monstrueux magma de force en mouvement qui s'exprime, qui se dilate dans des formes dilatées, n'est-ce pas, qui roue en permanence. Ça, c'est la vision du monde de Giono qui n'a pas changé de A à Z jusqu'à la fin. Simplement, l'idéal de Giono avant-guerre, c'était le mélange de l'homme et du monde, comme il écrit dans la préface des Vraies Richesses. Et donc, le désir, dont le vecteur est le sang chez Giono, le désir poussait les individus à se fondre dans le monde. Et donc, il a pensé, en particulier dans les Vraies Richesses, qu'une révolution sociale, à sa manière à lui, allait permettre aux individus de s'amalgamer heureusement au monde. Comme l'a rappelé Annabelle à l'instant, une série d'événements essentiels ont brisé absolument cette issue vers le monde naturel. De sorte que la voie par laquelle le désir se tournait vers le monde s'est trouvée fermée. Le monde, désormais, est fermé. Ça apparaît très bien au début de Un roi sans divertissement. Et à partir de là, les deux grandes motions qu'il va définir dans Noé, en les appelant la perte et l'avarice, mais qui étaient présentes dès le départ, vont fonctionner autrement. Très rapidement, la perte, c'est ce qui pousse l'individu à se fondre dans le monde, sauf que c'est mourir, si on le fait pour de vrai. Et à ce moment-là, ça suscite la réaction inverse de l'avarice du désir, pas de l'argent. Et donc, après-guerre, on voit les passions qui se déchaînent. Et qu'est-ce que c'est que ces passions ? C'est la façon qu'ont les individus, les personnages de ces livres en l'occurrence, de refuser ce fameux mélange avec le monde en jouant toutes les formes de l'indirection du désir. Et le plus bel exemple que vous pouvez en trouver, c'est dans De Cavaliers de l'Orage, ce que Marceau appelle le théâtre du sang. Vous prenez un homme, vous le faites saigner, vous lui ouvrez le ventre, vous le faites saigner, et tout le monde va s'agglutiner pour assister au spectacle, au théâtre du sang. Car c'est voir la perte s'effectuer, mais par victime interposée, exactement comme dans un sacrifice. Et ben voilà, l'œuvre d'après-guerre, c'est ça, c'est toutes les formes d'indirection de dépenses du désir.
Vous avez travaillé, Annabelle Marion, pour votre thèse sur le corpus médiatique autour de Jean Giono. Est-ce que ce changement de paradigme, il s'incarne aussi d'un point de vue iconographique ?
Oui, je me suis intéressée notamment en fait au portrait photographique de l'écrivain et on voit en fait à travers les photos comment aussi ce retrait se donne à voir. C'est-à-dire que dans les années 30, Giono était très souvent mis en scène par les photographes dans la nature. Enfin, il y avait beaucoup de portraits en plein air. Je pense au portrait de Gisèle Freund où on le voit couché dans l'herbe avec sa pipe, au portrait d'André Gaspari. Alors ça, c'est sous l'occupation, mais il y a toujours cette image d'un Giono prophète paysan. Et donc André Gaspari va le prendre en photo sur le plateau du Pontadour ou face à la montagne de Lure. Et donc on a vraiment une scénographie du prophète romantique, du chantre de la nature, en accord avec les éléments. Et il se mettait aussi en scène de cette façon dans ses essais, dans ses entretiens. Il y avait cette fusion avec la nature. Et après-guerre, on voit en fait cette scénographie changer. C'est-à-dire que déjà, il y a un nouveau costume un peu qui fait son apparition, puisque Giono apparaît souvent en fait en robe de chambre face au public. Et donc ça dit tout de suite quelque chose. Hein. Une robe de chambre qui est souvent rattachée à Balzac. Et donc c'est vraiment un vêtement d'intérieur, c'est le vêtement de l'écrivain. Et donc il est souvent portraituré en robe de chambre, alors soit dans son jardin, qui est certes un espace naturel et extérieur, mais qui est déjà un espace de l'intériorité. Hein. On pense à Candide, il faut cultiver son jardin. Soit, et c'est une mise en scène qui est encore plus répandue, dans son bureau, qui est vraiment le lieu du retrait par excellence, le lieu où il se retire pour écrire, et où on voit finalement que la création, l'écriture ici, est séparée du monde.
Pour rester un peu sur les sujets que vous avez traités dans votre thèse, Annabelle Marion, pourquoi et comment Jean Giono a-t-il cherché à reconquérir sa légitimité sur le plan littéraire ?
En 1945, Giono est vraiment dans une situation très difficile. Hein. Il est inscrit sur la liste noire du CNE, frappé d'ostracisme. Et donc, on voit en fait dans sa correspondance qu'il est vraiment dans un esprit de reconquête. Il veut réintégrer le monde des lettres et il veut le faire par son œuvre seule. C'est-à-dire qu'il n'a pas, il ne cherche pas à justifier ses actions sous l'occupation dans des entretiens ou à travers des mémoires ou des récits autobiographiques, mais il va se plonger dans l'écriture de séries romanesques. Alors c'est d'abord la Décalogie qui deviendra le cycle du Hussard, donc il envisage une grande série de 10 volumes. Bon, au final, il n'y en aura que 4, mais c'est quand même un ensemble romanesque important. Et il y a aussi ensuite l'écriture des chroniques, qui n'est pas préméditée à la base, mais très vite, quand il se met à écrire Un roi sans divertissement, il se met aussi à imaginer une grande série. Et donc vraiment, ces séries romanesques, il les envisage comme une espèce de démonstration de force, hein, comme une preuve de son talent qui forcerait les autres à le réintégrer dans le monde des lettres. Et c'est effectivement ce qu'il se passe, en fait, puisque ces romans paraissent de façon rapprochée entre 47 et 51. Et en 51, c'est le grand succès du Hussard sur le toit. Et là, Giono vraiment retrouve sa stature d'avant-guerre. Et cette seconde consécration, elle sera aussi symbolisée par son élection à l'Académie Goncourt en 1954.
Laurent Fourcault, malgré cette Deuxième Guerre mondiale dont on vient de parler, qui est un point de bascule important dans l'œuvre de Jean Giono, il faut rappeler que ce changement, ce passage d'une première à une seconde manière, ne se fait pas non plus de manière brutale dans ses livres. Il y a une transition autour de la fin des années 30 et du début des années 40, notamment dans son roman Deux Cavaliers de l'Orage, qui sera publié en 1965, mais qu'il a achevé une première fois en 1942.
C'est cela. Deux Cavaliers de l'Orage est un roman capital quand on veut comprendre l'évolution de Giono, en particulier dans cette période de l'occupation. Je vais vous lire le premier paragraphe de ce roman, c'est très rapide. Les jasons ne sont pas exactement des hautes collines, tout au moins on peut vite arriver à leurs ancêtres qui étaient des vallées là-bas derrière. En 93, les vallées ayant réclamé une guillotine, on la leur envoya. Ce fut un Jason le Vieux, qui ouvrit les caisses, déballa la machine, la monta et la fit marcher à travers les terres. C'est peu après que les Jasons furent obligés d'entrer dans les hautes collines. Ils devinrent les Jasons de Grand Gias, s'étant fixés à la ferme de Grand Gias, jusqu'à Jason l'artiste. Ce texte est le point de bascule de la première à la seconde manière. Pourquoi ? Parce que avant-guerre, le monde est régi par la conflagration des forces que Giono appelle les batailles. Batailles naturelles, bataille cosmique et bataille sociale. Et ce que vous avez ici, c'est au commencement était la bataille en bas, c'est 93, c'est la Révolution française, et puis les Jasons se réfugient dans les hautes collines, dans les hauteurs, comme font tous les avares de leur désir. Ils désertent. Le thème de la désertion est un thème fondamental chez Giono. Ils renoncent à obéir, voilà un autre mot capital, l'obéissant, obéir à la loi du mélange. Et donc, ils se réfugient dans les hauteurs, de sorte que le désir n'a plus d'issue. Il va fonctionner en vase clos, dans l'amour que se portent les deux frères, Marceau et mon cadet, Ange. Ange, c'est le nom que Giono donne à toute expression d'une force dans des formes. De sorte que la force est obligée de fonctionner en circuit fermé, raison pourquoi ils vont s'entretuer. Parce que, privée de vrais débouchés dans le monde, la force ne peut que s'autodétruire. Voilà exactement ce qui se passe.
France Culture, avoir raison avec Jean Giono, Marceau Vassy.
D'ailleurs, tout de suite après, il se met à tomber de la neige. À midi, tout est couvert, tout est effacé. Il n'y a plus de monde, plus de bruit, plus rien. Des lourdes fumées coulent le long des toits et emmantèlent les maisons. L'ombre des fenêtres, le papillonnement de la neige qui tombe l'éclaircit et la rend d'un rose sans frais dans lequel on voit battre le métronome d'une main qui essuie le givre de la vitre. Puis apparaît dans le carreau un visage émacié et cruel qui regarde. Une heure, deux heures, trois heures, la neige continue à tomber. Quatre heures, la nuit. On allume les âtres. Il neige. Cinq heures, six, sept, on allume les lampes. Il neige. Dehors, il n'y a plus ni terre, ni ciel, ni village, ni montagne. Il n'y a plus que les amas croulants de cette épaisse poussière glacée d'un monde qui a dû éclater.
On vient d'entendre les premières lignes d'Un roi sans divertissement, roman que Jean Giono publie en 1947, une lecture faite par Nicolas Berger. Ce qu'on entend, Annabelle Marion, dans ce passage, c'est notamment aussi le changement de style qu'opère Jean Giono dans cette seconde manière.
Au tournant de la guerre, Giono cherche vraiment à se défaire de son lyrisme et de son style très abondant qui le caractérisait dans l'entre-deux-guerres. Le journal de l'occupation montre très bien en fait ce travail qu'il essaye de faire sur son écriture. Alors Stendhal est un écrivain qui est très important dans cette mutation stylistique. Jean-Yves Le Richesse a montré comment Giono voyait en lui une espèce de modèle d'efficacité, de célérité dans l'écriture. Et donc, c'est vraiment un écrivain qui l'accompagne dans ce processus d'épuration, de dépouillement. Il y a d'autres modèles aussi qui entrent en jeu. On peut penser par exemple à Machiavel, qui est aussi du côté de l'écriture des faits, d'une certaine sécheresse dans la notation. Et donc, c'est aussi ces auteurs-là qui vont l'aider dans ce processus.
Les lectures des romans policiers, peut-être ?
Oui, aussi. C'est vrai qu'au tournant de la guerre, Giono se met aussi à s'intéresser aux romans policiers. À partir de 1945, il va être un très grand lecteur des séries noires, la collection créée par Marcel Duhamel chez Gallimard. Il demandera souvent à Gallimard de lui envoyer les dernières livraisons de la collection. Et sans doute qu'il s'intéresse aussi à ces romans policiers pour leur efficacité. Justement, il écrit dans son journal « Romans policiers, l'action sans poésie ». Donc c'est aussi ça qui l'intéresse dans ses romans.
Cet extrait est aussi intéressant, Laurent Fourcault, car le début de ce livre, donc le début d'Un roi sans divertissement, montre parfaitement le désenchantement de Giono après-guerre.
Oui, plus que le désenchantement d'ailleurs. Ça montre très bien que pour Giono, le monde après-guerre est devenu un désert. C'est le terme qu'il emploie constamment. Et comme c'est la neige qui a recouvert ce village de haute montagne du côté de Grenoble dans le Trièves, eh bien, c'est un désert blanc. Et ce désert blanc est aussi toujours l'image de la page blanche. Pourquoi ? Parce que Giono n'a plus d'autres ressources que de trouver dans sa propre écriture, dans le propre monde qu'il crée, ligne après ligne, l'exutoire dont je parlais tout à l'heure et dont ses personnages sont une mise en abîme. L'ennui, c'est un thème absolument capital dans l'œuvre d'après-guerre et la cruauté, un visage cruel qui regarde. La cruauté, c'est le latin cruor. Alors, il y a deux mots en latin pour dire le sang, c'est sanguis, le sang que vous avez dans vos veines. Cruor, c'est le sang qui coule quand les veines sont ouvertes. Eh bien, la cruauté, c'est ça. C'est faire couler le sang de l'autre plutôt que le sien propre, de façon à jouir indirectement de la perte désirée. C'est le théâtre du sang. Donc, dans ces quelques lignes, il y a beaucoup de ce qui va se développer dans l'œuvre d'après-guerre. L'ennui, la cruauté, le monde désert et toutes les conduite que cela entraîne chez les personnages, n'est-ce pas? Jusqu'à celle de Langlois qui, ayant épuisé tous les divertissements possibles, se fait sauter le caisson en allumant un bâton de dynamite.
Ce qui est aussi intéressant quand on entend ce début d'ouvrage et puis qu'on vous entend en parler, Laurent Fourcault, c'est qu'il faut rappeler qu'il y a une grande richesse dans l'œuvre de Jean Giono, c'est-à-dire dans les différents niveaux de lecture possibles. On peut à la fois lire les livres de Jean Giono comme étant des histoires, l'histoire d'un roi sans divertissement et des meurtres qui s'ensuivent dans un village, mais aussi comme des métaphores, notamment pour vous, il y a la métaphore constante de l'écrivain.
Tout à fait. Giono ne cesse pas de mettre en abîme dans sa fiction, c'est-à-dire de la représenter de façon imagée, de mettre en abîme son propre travail d'écriture. Par exemple, c'est le cas de l'horloge que Frédéric II trouve un matin dans son tiroir et puis il est ravi, il la fait marcher. Bon. Par exemple, dans Les âmes fortes, n'est-ce pas? Les âmes fortes qui est un extraordinaire roman des passions noires, vous avez deux personnages. Il y a Madame Numance qui aime Thérèse à la folie et qui donne tout ce qu'elle a. C'est la perte la plus éperdue. Et puis vous avez Thérèse qui joue le rôle qui était dévolu avant-guerre au monde, c'est-à-dire un grand trou où tout s'engouffre. Elle est le furet, c'est le terme de Giono. Elle absorbe ce que l'autre dépense et elle leur dit « vous êtes de la pure perte ».
Il faut sans doute nuancer un point, Annabelle Marion, c'est que la noirceur dans les livres de Jean Giono, de cette seconde manière notamment, ne doit pas laisser penser qu'il serait uniquement rempli d'amertume à cette période. Là encore, il y a presque un contraste entre le personnage médiatique, qui semble assez généreux et heureux, et les Giono sombres dans ses livres.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a en effet un contraste qui se donne à lire déjà dans l'œuvre elle-même. C'est-à-dire que ce qui nous est décrit est très sombre et très noir. Et en même temps, c'est une lecture dont on tire beaucoup de plaisir grâce au style, mais aussi grâce à l'humour, l'ironie qui imprègne constamment ces chroniques et aussi le cycle du hussard. Et voilà, on suit ces histoires très sombres avec toujours un sourire aux lèvres. Et Giono aussi, dans sa vie, dans ses apparitions médiatique, apparaît très souvent comme un homme heureux. Hein. Enfin, il met en avant ce bonheur de vivre à Manosque. Et ça crée un contraste, en effet, avec, parallèlement, cette vision très noire qu'il a du monde.
Pour revenir à l'œuvre de Jean Giono après-guerre, Laurent Fourcault, est-ce qu'il y a une différence entre donc, le cycle du Hussard, qui se compose de quatre ouvrages autour du Hussard sur le toit, qui paraît en 1951, et les chroniques romanesques, qui regroupent plusieurs romans que Giono écrit de manière concomitante, comme Le Moulin de Pologne ou Les Grands Chemins.
Il y a une différence très grande qui tient à ce que Giono n'a pas cessé d'être ce qu'il aimait appeler une âme sensible. Il n'a pas cessé d'être cet homme généreux, épris de bonheur dans le partage du monde, n'est-ce pas ? Mais la réalité historique, sociale, politique a fermé ce monde, de sorte qu'il a été obligé de faire état de son désespoir, de son ennui profond. Mais il reste un homme foncièrement généreux. Et le cycle du Hussard lui a permis, parallèlement aux chroniques qui sont très noires, de développer à travers le personnage d'Angelo, de développer cette dimension qui est fondamentalement la sienne, c'est-à-dire d'héroïsme, cette aspiration à l'héroïsme, à l'amour, au désintéressement, à la noblesse. Et Giono dit de son personnage Angelo qu'il était, je cite, « d'une générosité hémorragique ». Hémorragique, c'est quand le sang coule. Vous voyez, et voilà la modalité selon laquelle Angelo et le cycle du Hussard gèrent ce motif du théâtre du sang. Le comportement individuel, la noblesse, l'héroïsme, tout ça, c'est ça, la façon qu'a Angelo de sacrifier au désir porté par le sang. Voilà. Dans la somptuosité de son comportement avec les autres et avec lui-même.
Angelo, qui est donc voilà, le personnage au cœur du cycle du Hussard, ce militaire italien du 19e siècle. Annamel Marion, justement, le cycle du Hussard, vous l'avez dit tout à l'heure, Jean Giono l'écrit en ayant comme référence ou influence Stendhal, qui était déterminant pour Jean Giono. Mais on ignore, ou on connaît moins bien plutôt, l'influence qu'a pu avoir la lecture de Machiavel dans l'œuvre de Jean Giono.
Oui, Machiavel, c'est un auteur en fait qui le redécouvre sous l'occupation, et donc il se prend de passion pour ses œuvres. Et à partir de 1948, en fait, Gallimard lui confie la rédaction d'une préface aux œuvres de Machiavel qui sont destinées à être publiées dans la Pléiade. Et donc, dans ce cadre-là, il va se mettre à lire intensément les œuvres de Machiavel, mais aussi des critiques qui interprètent l'œuvre de Machiavel, et plus largement tout un tas d'ouvrages politiques. C'est aussi un peu un paradoxe de la période. Hein. C'est au moment où, en fait, il est désengagé totalement, enfin, il se retire de toute action sociale et politique, qu'il s'intéresse à la politique, qu'il tente d'élucider les lois du social, du politique, à travers la lecture de Machiavel, ce qui peut se voir comme une espèce de tentative d'élucidation aussi de son propre parcours, de ses déconvenues. Peut-être aussi une forme de catharsis, enfin, de recherche d'apaisement. Alors Machiavel l'intéresse parce que c'est aussi un peu un alter ego. Lui aussi a été victime d'une épuration, celle des Médicis, qui le chassent du gouvernement de Florence et qui l'emprisonnent. Et il est victime aussi d'une épuration, donc Giono se reconnaît un peu en lui. Et puis surtout, Machiavel, ça va être une figure tutélaire de la désillusion. Hein, donc Giono lui attribue cette vision très sombre de l'homme, hein, donc un homme qui est foncièrement égoïste, épris de violence, motivé par un désir de domination. Et en effet, on va voir cette influence dans les œuvres romanesques de l'après-guerre. Alors, dans les chroniques, par exemple, on peut penser à Thérèse dans Les âmes fortes, qui est une espèce d'avatar du prince, hein, avec son désir de dominer, de contrôler, sa maîtrise des apparences. Hein. Elle est maîtresse de l'art de l'illusion. Et dans le cycle du Hussard, c'est une empreinte encore plus directe, puisque, en fait, c'est à travers les Carbonari, hein, donc les révolutionnaires italiens, que Giono va vraiment aussi mettre en avant des politiques qui ne recherchent que le pouvoir, la domination, qui en fait, au nom d'idéaux très grands comme la liberté, la nation, vont se livrer à leur désir de dominer et leur désir de violence.
Quel regard justement Jean Giono va porter dans cette seconde manière, à la fin de sa vie notamment, sur la première partie de son œuvre, sur sa première manière ?
Alors il a une attitude assez paradoxale, enfin... Dans ses entretiens, il va jeter un regard assez critique sur certaines de ses œuvres, par exemple « Que ma joie demeure », qu'il considère comme un livre raté, ou « Le serpent d'étoiles ». Et donc il critique son style, qui était trop abondant. Et en même temps, il dit aussi « ne rien renier ». Et il cherche à affirmer une continuité et une cohérence dans son parcours et dans son œuvre. Et il va même, en fait, jusqu'à affabuler, en fait, sur la date d'écriture de ses œuvres d'après-guerre, puisqu'il déclare dans différents entretiens qu'il aurait écrit Angelo en 1934, en même temps que Ma joie demeure, ou Le moulin de Pologne en même temps que Le chant du monde. Donc voilà, il va essayer de brouiller un petit peu, justement, les frontières entre sa première et sa seconde manière, notamment en rejouant un petit peu les dates d'écriture.
On voit bien donc que la notion de vérité est parfois un peu floue avec Jean Giono. Ce sera justement le sujet de notre épisode de demain. Merci à tous les deux, Laurent Fourcault et Annabel Marion, d'avoir participé à cette émission. C'était donc le 4e épisode d'Avoir raison avec Jean Giono, une émission réalisée par Vanessa Nadjar, avec à la prise de son Bruno Mourland. Vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres de la série sur le site de France Culture, ainsi que sur l'application Radio France. Dans le prochain et dernier épisode de cette série, nous parlerons donc du rapport à la vérité et à la réalité. À demain.